Alex Baudin, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci de me recevoir, Sam, c'est un plaisir.
Comme à notre habitude, on va laisser notre invité se présenter. Donc, Alex, t'es qui?
Moi, je suis dans le fond Alex Baudin, vice-président de la coopérative Le Grenier Boréal, aussi coordonnateur du volet PFNL et Petits Fruits Sauvages. Je suis à l'emploi de la coop, c'est ma 5e année cette année, dans le fond. Puis, comment que j'ai commencé mon parcours avec la coop, c'était un peu spécial. En fait, avant, je travaillais chez Rio Tinto et la ville de Sept-Îles aussi. J'étais dans totalement une autre industrie. Puis, les années libérales, lorsque l'austérité nous a frappés sur la côte nord, on a perdu beaucoup d'emplois. Puis moi, j'ai fait un choix, un revirement de carrière. Je me suis retourné par chez nous, dans mon village natal, à Rivière-Saint-Jean, où c'est situé à 5 minutes du Grenier Boréal, en fait. Je connaissais pas le Grenier Boréal du tout. J'ai pris des vacances et à radio, un bon matin, j'ai entendu une annonce qui me parlait du thé du Labrador puis des recherches de cueilleurs. Fait que là, j'étais allé voir par curiosité pour... J'aime pas être quelqu'un qui est assis à rien faire. Fait que j'ai dit, je vais aller voir ça. J'ai essayé avec mon père, tous les deux, on a fait ça, il était en vacances lui aussi. J'ai adoré ça, la cueillette de thé du Labrador. J'ai trouvé ça relaxant, j'ai trouvé ça fantastique, étant donné qu'on est dans la nature, puis il fait beau, il fait chaud. En plus qu'on peut faire de l'argent en même temps. Fait que je me suis dit, quoi de mieux? Fait que de fil en aiguille, j'ai commencé à cueillir. J'ai fait ça 2 semaines de temps. Puis Monsieur Lucier, le Claude Lucier, qui était le fondateur de la coop Le Grenier Boréal, merci à Claude, là, justement, d'avoir pensé à créer ça dans notre région. Il m'a approché, puis il m'a dit, Alex, on recherche quelqu'un au Grenier Boréal pour coordonner les opérations des produits forestiers non ligneux, puis développer notre volet à travers le Québec, qui était à l'époque très de base, notre volet, là. Tu sais, on avait peut-être un chiffre d'affaires de 2 000 $ dans le volet PFNL. C'était vraiment minime. Fait que j'ai commencé à lire des livres là-dessus. Puis de fil en aiguille, je me suis intéressé de plus en plus. Je suis retourné voir Monsieur Lucier. Puis j'ai dit que je serais peut-être prêt à essayer un petit emploi, là, pas comme coordonnateur au début, là, parce que je trouvais que c'était beaucoup, mais comme employé, là, un cueilleur ou des simples. Je suis allé me former aussi en cueillette puis en produits fins. Ensuite, Monsieur Lucier m'a rappelé, puis il m'a dit, t'as une place au Grenier Boréal, fait que pense-y. Fait que moi, je me suis dit, OK, je passerais peut-être les grosses industries par chez nous, qui nous donnent des très gros salaires, à l'industrie agricole, qui nous donne des très petits salaires. Fait que j'ai fait un choix. Je me suis dit, à la place de choisir l'argent, je vais choisir d'être bien, d'être heureux. Fait que je me suis lancé. J'ai travaillé en 2004. Je me rappelle plus exactement la date, là, mais en tout cas, j'ai rentré comme cueilleur pendant une saison. Puis l'année d'après, j'ai été engagé comme coordonnateur du volet PFNL. C'est là que mon histoire avec le grenier a commencé.
Wow. Si tu veux nous parler un peu justement du Grenier Boréal, ça a été fondé par M. Claude Lucier. C'était quoi la mission? Tu dis qu'il y a un volet PFNL, ça veut dire qu'il y a un volet plus large qui est agroalimentaire. Si tu veux nous parler un peu de la mission, sa fondation, tout ça.
Ben en fait, le Grenier Boréal, il a été fondé par Monsieur Claude Lucier et par Madame Josée Bélanger, qui à l'époque, le but, c'était de développer la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire de la région de la Mangamie. Chez nous, il n'y avait aucune entreprise agricole, il n'y avait aucune production, rien du tout. Fait qu'ils se sont dit en même temps pour créer de l'emploi, diversifié dans notre région. Parce que chez nous, c'est pas mal juste les pêches, les mines, puis la construction. Ils se sont dit, on va créer une coopérative de solidarité des travailleurs qui a pour mission de fournir du travail à ses membres et de développer la sécurité alimentaire en Mangamie. Fait que aussi, par après, on a diversifié nos volets. C'est commencé avec un petit volet maraîchage et un petit volet de produits forestiers non ligneux. Ensuite, Monsieur Lucier a démarré un volet de services conseil en environnement où on a travaillé beaucoup avec les minières en services techniques en environnement. Ensuite, on a démarré un volet agro-touristique. Comme le grenier boréal prenait de plus en plus d'ampleur, puis c'est de plus en plus connu, les touristes avaient un fort intérêt l'été à venir nous visiter, puis en apprendre davantage. Ça fait qu'on a développé ces quatre volets-là. Puis à terme, au bout de 10 ans, là, presque, au bout de 8 ans plutôt, on a annulé le volet services techniques en environnement pour se concentrer exclusivement sur le maraîchage biodiversifié à petite échelle, la permaculture en milieu forestier. Puis ensuite, on a développé énormément le volet produits forestiers non humus, champignons sauvages, petits fruits nordiques et l'agro-touristique. Ça, c'est pas mal nos trois secteurs d'activité principaux à la coop présentement.
Sur le volet agroforestier, c'est clairement qu'en Côte-Nord puis en Méganie, vous avez des défis climatiques et agronomiques. C'est quoi ces défis-là? Puis quel genre de tests puis d'innovations vous avez faites en mode agroforestier?
Ben nous, en Mangani, justement, on a des petites saisons courtes qui commence à s'allonger de plus en plus là, avec les changements climatiques, on le voit déjà. On a des sols super pauvres, très acides et avec sableux. En fait, on n'a pas des terres propices à la culture du tout. Fait que les premiers tests qui a été fait au grenier boréal, moi, j'étais pas là sur le terrain, mais je sais qu'ils ont essayé beaucoup de cultures comme le houblon qui grimpe sur les épinettes, des choses comme ça, en clairière un peu, à l'orée des forêts. On a essayé de planter aussi beaucoup de cultures vivaces adaptées à notre région, comme la persil de mer, des choses comme ça, qu'on a essayé un peu partout. On a même planté de l'ail des bois en pleine forêt. Il n'y en a pas dans notre région de l'ail des bois. On l'a planté dans une mousse de sphaigne en pleine forêt d'épinettes. Puis croyez-le ou non, l'ail des bois, il a bien pris, puis il s'est même reproduit lui-même un peu partout. Fait que ça, c'est un test qu'on est vraiment content. C'est Madame Sarah Genois-Gélina qui l'a fait. C'était la première coordonnatrice à la coopérative. Fait qu'elle a fait un très bon travail. Ensuite, ben là, on s'est plus concentré sur comment fertiliser nos sols hyper pauvres avec le peu de matière qu'on a de disponible en manganie. Étant donné qu'on n'a pas de fumier, on n'a rien du tout, il n'y a pas d'élevage d'animaux, il n'y a rien. On s'est tourné vers la mer, donc on a essayé d'incorporer les caplans, un poisson qui est abondant par chez nous au printemps, début d'été. Ensuite, les algues, on a fait vieillir des algues, on les a incrustées dans nos champs, on les a mis en bordure des forêts. Ensuite, on a aussi utilisé beaucoup le BRF avec les zones crispés qui sont énormément nombreux chez nous. On fait des forêts de ça, fait qu'on n'a pas eu de misère à avoir de la bonne matière première pour améliorer nos champs. Puis comme test, là, de plus en plus, on commence à cultiver nos produits sauvages qu'on retrouve ici, comme l'airelle vindida, la camarine noire, la ronce arctique, puis d'autres petits fruits comme la chicoutée aussi, qui est encore... Ça, nous, on y a pas touché encore, mais c'est dans nos projets. Tout ça en collaboration avec le Centre de recherche en forêt boréale de Baie-Comeau, avec Ève-Catherine Desjardins et Marie-Claire Gervais, deux excellents partenaires pour le grenier boréal. Ensuite, Monsieur Lucie avait un intérêt, lui, pour la permaculture, un mot qu'on connaissait pas par ici. Il a développé des systèmes de permaculture. On a fait... Par exemple, des buttes de fraises où on a rajouté de la camerise, des fines herbes. Puis là, on a d'autres plants, là, rajouter des champignons dans les buttes, peut-être des pommiers, des poiriers, des pruniers. S'inspirer un peu aussi du modèle de Monsieur Stéphane Sopkoyak qu'on trouve assez excellent comme modèle et productif. Puis même en Mangani, on va essayer de l'adapter à notre réalité. Comme je disais, c'est des sols acides. C'est des sols pauvres, fait qu'on s'imagine bien avoir une butte d'airelle vindida avec des argousiers par-dessus, ensuite des myriques baumiers comme fixateur d'azote, puis toutes sortes de choses comme ça, là. C'est comme un gros laboratoire géant, la coopérative, encore à l'heure actuelle. On essaie beaucoup de choses. C'est tout, comment je dirais, c'est tout à tâtons un peu, là, parce qu'il n'y a rien qui a été fait ici. Fait que c'est pas mal notre système, nos tests en agroforesterie, un peu, qu'on a fait. On avait planté aussi beaucoup de plantes comme du wasabi sauvage, puis des choses comme ça en pleine forêt. Ça n'a pas tout marché. On a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de réussites aussi, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs dans nos tests. Mais ça sert à ça aussi. Donc, c'est pas mal ça, nos essais qu'on a fait.
Puis comment vous faites, disons, le choix puis le compromis entre l'expérimentation, la prise de risque et la rentabilité, tu sais? Puis à quel point vos tests ont été concluants puis ont amené des succès là, en productivité puis en production? Comment vous faites ces décisions-là?
Ben, nous, premièrement, là, on a remarqué dans le volet PFNL que les cueillettes en milieu sauvage, ça mettait une légère pression sur le milieu. Puis, chez nous, c'est très traditionnel, hein, la cueillette. Puis les gens, surtout les aînés, ils ont besoin d'avoir accès à leurs petits fruits puis leur talle en milieu naturel. Fait que nous, quand on a vu ça, puis qu'on a vu qu'avec notre équipe de cueilleurs, ça mettait une bonne pression sur le milieu, on s'est dit faut trouver un moyen de réduire cette pression-là tout en continuant, nous, d'offrir les produits qu'on veut offrir à l'échelle du Québec. Ça fait qu'on s'est tourné vers la domestication, je peux dire, de ces produits sauvages-là. On savait qu'il y avait des risques comme ça n'avait jamais été fait. Encore là, aujourd'hui, il va y avoir des risques avec nos nouveaux essais, la Camerine noire puis la ronce arctique. Mais on le fait parce qu'on se dit les bénéfices sont mieux que les risques. T'sais, si on continue comme ça, on a le risque de détruire peut-être un peu plus en milieu naturel, t'sais, de mettre une trop grosse pression puis de limiter la ressource aux locaux. Mais si on le fait, on a la chance d'augmenter notre production, d'avoir une meilleure acceptabilité sociale, si je peux dire, dans la région, parce que, comme je disais, c'est très traditionnel, puis les gens, ils ont besoin d'avoir accès à leurs petits fruits en forêt. Puis si on se dérange pas dans nos talles, comme on dit, quand il y a du monde là, on y va pas. Puis les Innus aussi, c'est important d'avoir une bonne collaboration avec eux, c'est en milieu naturel. Donc, pour nous, on pèse surtout l'impact social que ça peut avoir quand on fait une décision. L'impact économique, c'est clair que c'est important, mais c'est surtout l'impact social et environnemental. Tu sais, on sait que c'est un créneau lucratif, les petits fruits nordiques. Puis en milieu sauvage, ici, il y en a une abondance quand même incroyable. Ça fait que ça ne nous dérange pas trop de laisser des talles à certaines personnes, puis de nous tenter de les cultiver à nos risques et périls, mais on sait déjà que ça va marcher. Tu sais, on y va avec la confiance surtout. C'est drôle à dire, mais on est entouré d'une bonne équipe, comme je disais, le centre de recherche de Baie-Comeau. On leur fait confiance énormément dans leur projet de recherche qui vise à domestiquer nos cultures sauvages. Donc, on pèse vraiment les bénéfices-risques comme ça, là. Si on se fait accepter dans la communauté parce qu'on tente de protéger la ressource en milieu naturel tout en continuant de l'envoyer à Montréal, Québec, des places comme ça, ben on se dit tout de suite oui parce que ça vaut la peine pour nous autres. T'sais, même si pendant quelques années, les bénéfices économiques vont être réduits, étant donné que le temps que les cultures s'installent, etc., on a moins de volume. Mais pour nous, ça n'a pas d'importance parce qu'au final, on sait qu'on va se reprendre sur plusieurs années. Puis en même temps, on sait qu'on fait plaisir aux communautés locales en leur laissant leurs produits, tu sais, de traditionnels, en n'allant pas les déranger dans leur milieu, tu sais. C'est important pour nous autres, ça, parce que la coop, avant tout, elle appartient à tous ses membres, elle appartient aux gens de la Mangani. Fait qu'on écoute leur point de vue. C'est surtout là-dessus que nos décisions sont basées, là, pour le futur, puis pour nos expérimentations de culture ou pour nos orientations dans le volet PFNL, même maraîcher.
Puis aussi que, oui, vous écoutez vos membres, les gens de votre région, mais je vais parler pour un représentant plus provincial. Les résultats de vos recherches ont de la valeur pour tous les habitants de la forêt boréale là, québécoise, là. Donc, merci beaucoup de prendre ces risques-là puis de faire de l'expérimentation. C'est très apprécié. Volet PFNL. Si tu veux nous en parler, nous donner un peu le profil, des cueilleurs, des produits de cueillette que vous faites, de la distribution. On va parler de ça, mais fais-nous une petite introduction sur votre volet PFNM.
Ben, nous, notre volet PFNL, en fait, il est en continuelle évolution depuis 4 ans. Ça a commencé à la coopérative avec quelques petits fruits là, qui étaient populaires dans le coin, la chicoutée, les relvingdida, les bleuets, la framboise, les petites fraises. Puis là, on a remarqué qu'au Québec, il y avait une bonne engouement. Fait que, on a commencé à former nos cueilleurs. Chez nous, il faut le dire que nos cueilleurs, comme je disais, c'est en majorité des aînés. Les jeunes, c'est très dur par chez nous d'attirer les jeunes vers la cueillette. Fait que là, on le voit déjà là, à l'horizon 5-10 ans, là, un petit problème de main-d'œuvre de ce côté-là. Mais puis ici, on récoltait juste les petits fruits aussi. Il faut le dire, traditionnellement, on ne touchait pas au PFNL ni à rien de ça. Fait que nous, au Grenier Boréal, on s'est dit, on va prendre notre réseau de cueilleurs, on va les former à accueillir des nouveaux produits comme le thé du Labrador, le poivre des dunes, le genévrier, le persil de mer, la sableine, ensuite l'ortie, qui était quelque chose que les gens connaissaient vraiment pas chez nous, le petit thé des bois, les pousses de conifères au printemps ici là, qui servent d'épices aussi pour nos clients. Fait qu'on les a formés tranquillement, pas vite. On leur a appris des nouvelles cueillettes. Ça a pas pogné chez tous les cueilleurs. Ici, ça reste très traditionnel. Fait que le volet PFNL, il est surtout axé sur les petits fruits nordiques, comme tous les petits fruits nordiques, là. Il n'y en a pas un qu'on récolte pas. En passant par l'aralie, jusqu'aux petites fraises, jusqu'aux camarines noires, l'aronia, tous les petits fruits possibles de notre territoire. On l'a développé le volet au début avec seulement l'optique de vendre en gros à des transformateurs locaux comme les micro-distilleries, les micro-brasseries. Mais là, de fil en aiguille, on se rend compte que on devrait peut-être axer sur la transformation dans notre région parce que malheureusement, on expédie nos produits en gros dans les régions de Montréal, Québec, et c'est eux qui les transforment pour les revendre au Québec et au Canada. Nous, on a un projet, là, le volet a beaucoup évolué. On a un projet de transformation là, qui va voir le jour, j'espère, d'ici les prochaines années, où on compte bien faire tous les produits possibles avec nos petits fruits puis les PFNL. On vend déjà, on a commencé à vendre depuis quelques années des petits produits là, comme des tisanes, des épices, des mélanges d'épices, des fois des petites confitures l'été vite faites là quand on a des gens qui veulent bien en faire pour nous, mais tu sais c'est quand même un volet qui est encore à développer de A à Z, le volet PFNL, mais il commence à prendre beaucoup d'envergure. On a quand même énormément augmenté la production en volume dans les 4 dernières années, énormément augmenté le chiffre d'affaires aussi dans les 4 dernières années. Mais il y a le problème, comme je disais, que nos cueilleurs, c'est beaucoup des aînés, beaucoup des gens là, en retraite ou en semi-retraite qui vont faire de la cueillette par plaisir, mais aussi pour arrondir les fins de mois, comme on dit, là. C'est des gens qui utilisent ça pour se gâter un peu plus, là, tu sais, c'est quand même quelque chose qui est payant chez nous, la cueillette, étant donné l'abondance des petits fruits, c'est facile de faire un bon salaire quand même. Puis on essaye aussi en même temps, via de bouche à oreille, puis des petites sorties, d'intéresser les jeunes un peu à ça. Mais ça, c'est pas facile. T'sais. Fait que notre volet PFNL, il est encore en développement, plus que notre volet maraîcher. Puis il y a encore beaucoup de travail à faire, autant au niveau de la sensibilisation des cueilleurs. Ici, les cueilleurs sont pas vraiment formés. Ils aillent de façon traditionnelle. T'sais, ils respectent nos critères, nos demandes, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, de formation, du travail d'éducation aussi pour leur apprendre des nouveaux produits, des techniques de récolte, aussi pour le conditionnement, qui est vraiment. C'est nous qui s'occupons de tout le conditionnement de A à Z. Donc, des fois, pour les capacités de séchage, c'est limité pas mal quand tu as tous les cueilleurs qui rapportent leur stock, là. Ça, c'est toutes des petites choses à améliorer. Mais c'est un volet qui est quand même très en santé à la coop, puis en continuel développement d'année en année, on voit l'expansion qui est assez intéressante.
Comment ça marche? Tu dis, vous êtes une coopérative de solidarité. Est-ce que les cueilleurs sont des coopérants? Comment ça marche pour devenir cueilleur chez Grenier Boréal?
En fait, tout le monde peut cueillir pour le grenier boréal, sauf qu'à la différence, nos membres travailleurs qui sont des cueilleurs, eux, ils ont un meilleur prix à l'achat que les cueilleurs qui ne sont pas membres du grenier boréal. Parce que c'est sûr que si quelqu'un nous arrive avec un produit, on crachera pas dessus. Il est déjà récolté, fait qu'on veut pas de gaspille, on va l'acheter. Mais évidemment, il va avoir un bon 30% de moins que nos membres travailleurs à l'achat. Puis le but aussi, c'est de donner un bon prix à nos membres travailleurs, assez intéressant pour les encourager à continuer avec nous. Puis un prix moins bon à ceux qui ne le sont pas pour les intéresser à le devenir. Fait que c'est comme ça qu'on procède là, pour l'achat.
Sur la question des bonnes pratiques puis de la traçabilité, comment tu fais le suivi, tu sais, oui, tu as fait de l'éducation avec un cueilleur, bon, tu as assuré de lui donner toute la formation possible, mais comment tu t'assures que la cueillette est faite dans le respect de la formation que vous leur avez donnée?
Ben, nous, depuis 2 ans, on a travaillé à l'instauration d'un système de traçabilité pour tous nos cueilleurs. Dans le fond, nos cueilleurs, ils ont une feuille où ils doivent noter la région où ça a été cueilli dans la Côte-Nord, par exemple. Quand je dis région, c'est plutôt la MRC, la Côte-Nord où ça a été cueilli. Ensuite, le village, la date, puis le point GPS, par exemple. Tout ça, c'est noté sur une étiquette qui est apposée sur notre produit une fois qu'il est conditionné puis emballé. Ils sont tous séparés par lot. Puis, il y a un numéro aussi d'identification du cueilleur qui est apposé sur ça. Fait que nous, quand on reçoit le produit, premièrement, il est toujours inspecté. Fait que là, on peut voir, par exemple, ça a été récolté au peigne. Là, ben on le sait parce que normalement, les fruits sont pas clean cut. Il y a des pods, puis il y a des petits fruits éclatés. Puis pour le thé du Labrador, par exemple, qu'on exige de récolter à la main, ben, s'il y a une petite branche, on le sait que s'il y a des petites branches, ça a été coupé. Fait que ça, c'est la première façon de le vérifier. Puis sinon, ben, il y a le tour des tables, justement, où on va se promener, on va voir comment ça a été cueilli grâce aux données que les cueilleurs nous ont fournies. Par exemple, le point GPS ou le lieu de la récolte identifié parfaitement. Puis, tu sais, nos cueilleurs, on fait affaire avec eux depuis 2013, fait qu'on les connaît beaucoup aussi. Il y a quand même encore le sentiment de confiance qui s'est établi, puis on se fie beaucoup là-dessus aussi. Mais je vous dirais que ça marche bien parce que moi, j'y vais personnellement vérifier les lieux de récolte, là. Puis des fois, j'ai vu des choses mauvaises que j'ai pu faire corriger. Puis souvent, je vois le travail est bien fait. Puis les données que les cueilleurs nous donnent sont véridiques et vérifiables aussi. Fait que on se fie encore beaucoup sur la confiance, t'sais, parce que c'est pas tous les cueilleurs qui ont un GPS. Ça coûte cher quand même avoir un GPS. Puis nous, au grenier, on n'a pas la capacité d'en donner un à tous nos cueilleurs, là, étant donné qu'on a une armée de cueilleurs quand même. Fait que ça, c'est pas mal le moyen qu'on a pour s'assurer que le travail de nos cueilleurs respecte nos enseignements, puis respectent nos valeurs aussi. Puis tout d'abord, tout simplement aussi, ils savent que si c'est bien fait, le prix va être là. Nous, quand on sait qu'on a un cueilleur qui fait bien son travail, qui respecte toutes nos demandes au niveau de la traçabilité, de l'étiquetage, puis du conditionnement, ben on donne un meilleur prix. T'sais. Puis le prix augmente toujours en fonction de. Il y en a qui peuvent avoir un meilleur prix que d'autres, juste à cause de ça. Ça, c'est pas mal un petit moyen de pression, je dirais, pour vérifier ça. Puis, on a un plan de rotation aussi des lieux de récolte pour s'assurer que, par exemple, le thé du Labrador, les petits fruits, il n'y a pas de problème. Nos cueilleurs peuvent y aller chaque année dans le même lieu. Mais le thé du Labrador, on a un plan de rotation, c'est sur 2 à 3 ans même avant de retourner dans le même lieu de cueillette. Ça, c'est respecté par tous parce que les tales sont vérifiées chaque année. Je les vérifie moi-même chaque année, là, parce qu'on a vécu des problèmes par rapport au thé du Labrador. Il y a des années, on s'est dit on va accepter la cueillette comme à la serpe, mais on n'utilisait pas de serpe, nous on coupait avec des sécateurs. Puis on a vu le dommage incroyable que ça fait aux plants du thé du Labrador. Puis on a pu le faire constater aux cueilleurs aussi. Donc là, ils ont arrêté de le faire. Puis t'sais, les gens sont quand même très coopératifs, étant donné que tout le monde le sait que si la coop ne respecte pas un certain code d'éthique avec la cueillette, mais c'est pas juste le grenier boréal qui va en subir les conséquences, ça va être les cueilleurs au complet aussi, vu qu'ils vont perdre leur marché. Puis nous, au grenier boréal, on va arrêter d'acheter des produits tout simplement, là, parce qu'on a vraiment l'environnement à cœur. Puis on sait qu'il n'y a pas de système de traçabilité au Québec, vraiment, pour les produits forestiers. Ça fait qu'on travaille beaucoup à le perfectionner d'année en année avec nos cueilleurs aussi, parce que nos cueilleurs, c'est des acteurs importants là-dedans, là, aussi, ils nous donnent leurs idées, puis comment ils voient ça, puis comment ça serait plus facile de tout coordonner ça, puis de pouvoir vérifier ça, tout le monde ensemble, là. Parce qu'on s'entend que ici en Magani, en Côte-Nord, c'est vaste, la forêt est énorme. C'est pas partout qu'on peut vérifier tout, là. C'est pour ça que les points GPS sont importants aussi pour pouvoir aller au bon endroit. C'est pas mal comme ça qu'on a créé notre système de traçabilité. Ça reste beaucoup plus complexe que ça, là. Je le résume grossièrement, mais c'est quand même très important pour nous, système de traçabilité.
Ah, c'est vraiment des bons outils. Oui, tu as l'outil de traçabilité, mais tu as aussi l'incitatif en étant membre coopérant puis en ayant un prix majoré. Puis tu as le sentiment d'appartenance. Tu sais, le sentiment d'appartenance de faire partie d'un projet régional que si tu fais le cave, ben c'est tout le monde qui paye. Tu sais,
Exactement.
puis ça a toujours été comme ça, la cueillette. Tu sais, si tu es sur une terre familiale, que tu sais qu'il y a une pérennité multigénérationnelle qui doit être tenue. Tu sais, si tu sais que tes petits-enfants vont venir dans la même table, ben, tu n'as pas la même considération que si tu désires juste faire une passe de cash rapide. Tu sais, ce
Exact.
sentiment-là d'appartenance, il est vraiment important. Mais pour revenir sur l'outil de traçabilité, souvent, un des enjeux, c'est l'enjeu de la confidentialité. Tu sais, si je donne mon lieu de cueillette, comment je sais que un autre coopérant ou une personne qui aura eu l'information va pas venir tout prendre avant moi? C'est comment vous gérez ces enjeux-là?
Ça, c'est quand même encore compliqué pour nous parce que sincèrement, c'est pas toutes les cueilleurs qui vont vouloir donner leur talent, comme on dit. Mais il y a quand même un sentiment de confiance à développer. Puis ça, c'est important que nos cueilleurs le comprennent. Bon, on essaie de leur faire comprendre nos aînés surtout. T'sais, ils ont des lieux réservés pour eux, là. Fait que ça, on n'y touche pas, puis nos cueilleurs n'y touchent pas. Les autres talles que nos gens y vont, il n'y a que nous, comme moi-même, le coordonnateur du volet PFNL, qui le sait, c'est où. Puis c'est tout sur une page. Puis éventuellement, là, pour perfectionner la chose, il va avoir des contrats même de confidentialité dans l'idéal, à signer avec nos cueilleurs, pour leur assurer qu'on ne dévoilera pas leur lieu à personne, puis pour leur assurer que dans le fond, il n'y a que nous, le grenier boréal, que le coordonnateur qui va pouvoir avoir accès à ça, ou le MAPAC, exemple, qu'il arrive quelque chose, là, qu'il y a un parasite dans les fruits, whatever, puis on veut savoir ça vient d'où. Mais là, on ne donnerait jamais ça à d'autres cueilleurs, on ne le partage jamais à personne, c'est jamais affiché nulle part. Puis c'est comme une promesse pour l'instant de respect envers nos cueilleurs, mais éventuellement, on va rédiger un contrat de confidentialité par rapport à ça, parce que justement, c'est une crainte que tout le monde a. Même moi, là, en tant que cueilleur, c'est une crainte que j'ai de donner mes spots, parce que on le sait, des fois, c'est dur à trouver un bon spot, puis quand tu l'as, tu veux le garder. Ça, je comprends ça très bien. Mais il y a aussi le fait que si on veut vendre nos produits, si on veut, si les cœurs veulent vendre leurs produits, mais ils n'ont pas le choix d'y adhérer parce qu'on est rendu là, moi, je pense, au Québec. C'est sûr qu'on n'a pas l'outil miracle pour les forcer à adhérer. On n'a pas l'argumentaire miracle non plus. Mais présentement, je vous dirais que sur 80 cueilleurs, là, il y en a un bon 50% qui le font facilement. C'est avec ceux-là qu'on fait le plus affaire. Puis ceux qui ont plus de réticence à adhérer à ce mode de fonctionnement-là, étant donné qu'on n'a pas de garantie 100%, là, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Et eux, ben, on les met en second. T'sais, on va aller faire affaire avec eux, mais si on n'a pas le choix. Tandis que ceux qui adhèrent, il n'y a pas de problème, on va faire affaire avec eux tout de suite. Mais tu sais, c'est comme, il n'y a pas la recette miracle encore là, pour convaincre nos cueilleurs d'avoir confiance à 100% en nous. Parce que dans la vie, il y a des gens qui ont de la misère aussi à avoir confiance en quelque chose comme ça. Là. Même si le grenier boréal, en fait, c'est eux. Tu sais, c'est une coopérative de membres de travailleurs. Fait que chaque cueilleur, ça y appartient, cette coop-là. Fait qu'on essaie de leur dire ça comme ça. Puis leur dire, c'est dans notre intérêt à nous de rien dire aux administrateurs parce que c'est votre coopérative, c'est votre travail. Puis nous, on est là pour la protéger, la ressource. Là, t'sais. On n'est pas juste là pour l'exploiter, on est là pour la protéger aussi. Fait que si on réussit à les convaincre comme ça, tant mieux. Mais sinon, pour les autres, justement, je pense de plus en plus juste à un contrat de confidentialité qui va assurer aux cueilleurs qu'on ne peut pas en parler de son lieu de récolte. Puis quand on le met sur notre étiquette, le point GPS, il n'y est pas. Pour nos acheteurs, on veut pas qu'ils voient le point GPS, mais nous, on a un registre avec le numéro d'étiquette que lui, il a le numéro GPS. Fait que comme ça, on sait que quand le lot est vendu, il y a que moi là, qui sais ça vient de qui, ça vient de où. Sur l'étiquette, il y a un paquet de chiffres et de codes, mais ça, l'acheteur n'a pas moyen de démêler ça. Là, t'sais. Ça lui prendrait la légende de l'étiquette, on va dire. Fait que déjà là, ça, c'est un autre moyen de garder le secret là, sur notre école. Sinon, ça reste encore à travailler un peu, là, ce côté-là.
Puis, tu sais, si on prend par exemple une plante comme le thé du Labrador, quand tu fais ta régie de talle, c'est quoi les indicateurs qui disent que ça a été une bonne cueillette? Tu sais, comment tu sais si ça a été bien fait ou non? Puis, c'est quoi les pratiques que vous encouragez, chez vos cueilleurs?
Ben moi, première des choses, quand que je vais dans une grosse talle de thé du Labrador, parce que chez nous, on a des océans de thé du Labrador, fait que les milieux de cueillette, là, il n'y en a pas 50. La plupart vont dans les mêmes endroits. Mais on le dit à nos cueilleurs, c'est 30% maximum de la plante ou de la talle au complet que tu peux récolter. Fait que moi, j'y vais à chaque année. Fait que je le sais avec mes yeux, puis les photos, tout ça, à quoi la talle ressemble. Fait que si j'arrive à la fin du mois de juillet puis que je vois que les têtes de thé du Labrador, c'est que des tiges vides de 2-3 pouces partout puis qu'il n'y a plus de feuilles, là, je sais que ça n'a pas été bien cueilli automatiquement. T'sais. Puis si je vois des coupures aussi au sécateur ou à la serpe, ou même il y en a qui peuvent utiliser des machines des fois, là, ben je le sais automatiquement aussi que ça a été mal fait. Puis nous, au grenier boréal, on n'a pas, on exige de récolter que les feuilles de l'année parce que nos clients, eux, c'est ce qu'ils veulent. Fait que là, je le vois aussi quand le produit m'est amené, s'il y a des feuilles rouillées, s'il y a des feuilles avec le duvet orange en dessous, si le cueilleur il a récolté plus que 4 kilos dans sa journée sec, là, pas frais, mais ben là aussi, je sais que c'est presque impossible. Là, t'sais, moi, on a une moyenne d'établi avec nos cueilleurs de rendement à l'heure par produit. Fait que là, je le sais déjà, ça a été récolté rapidement, donc avec une machine. Puis l'année d'après, si j'y vais, puis la talle a dépéri, des fois, on arrive, les plants sont tous secs, tous bruns. Ils n'ont pas eu le temps d'outer avant de se faire débourgeonner, comme on dit, là, en cueillant, tous les bourgeons étaient arrachés ou coupés. Ben là, on voit. L'année d'après, on voit la talle qui est en train de dépérir tout de suite, tout de suite. Puis le plan de rotation, on l'établit avec les tâles qui nous sont données par les cueilleurs. Ben moi, l'exemple 2020, je sais quelle tâle a été récoltée par 5 cueilleurs, par exemple. Parce que aussi, j'ai un nombre limité pour des choses compliquées comme ça. J'envoierai pas 50 cueilleurs. Là. Tu sais, je vais en avoir 5-6 maximum, que je sais c'est qui, puis je sais où ils vont. Puis là, on va établir un plan de rotation avec eux, seulement avec eux. Puis comme ça, je vais pouvoir leur dire 2021, tu peux pas aller dans la zone A, tu vas dans la zone B. 2022, tu vas dans la zone C. 2023, tu vas dans la zone D. Après ça, tu peux retourner en 2024 dans la zone A. C'est un plan de rotation qui est fait comme ça avec un très petit nombre de cueilleurs. Parce qu'en plus, c'est pas tous nos cueilleurs qui aiment ça, le cueilleur du Labrador ou des PFNL en tout genre, c'est plutôt les fruits, comme je disais par chez nous. Puis les fruits, ça, on n'a pas de problème. Il n'y a pas de plan de rotation, ça revient chaque année, puis en abondance. Mais c'est ça, le thé du Labrador, c'est encore compliqué. Là, le gouvernement, en plus, qui a légiféré l'année passée un peu plus la récolte de thé du Labrador. Fait que nous, on essaie d'embarquer dans le bateau là aussi. Mais c'est un plan de rotation qu'on établit justement avec nos 4 à 5 cueilleurs principaux. Puis ça, c'est respecté pour le moment. C'est respecté. Depuis les catastrophes là, que je peux dire que j'ai vues dans la forêt, là, les premières années, il y avait des gens qui récoltaient très rapidement parce que le thé du Labrador se vend un bon prix par chez nous, très bon prix. Fait que les gens se dépêchaient, on avait du thé de mauvaise qualité tout le temps parce qu'on voyait, là, les gens prenaient toute la tige, puis prenaient toutes les feuilles. Mais maintenant, quand on se promène dans nos tâles où ils sont identifiés, c'est sûr qu'on peut pas toutes les protéger, les tâles, on peut pas toutes les vérifier non plus. Fait que des fois, peut-être qu'il y a des cueilleurs qui allent dans des tâles que je connais pas, puis qui récoltent en cochon, comme on dit. Ça, j'ai pas de certitude, tu sais. La nature, c'est vaste, on peut pas tout vérifier. Fait qu'encore là, il y a un sentiment de confiance, puis une relation de confiance s'établit entre nous, puis on vérifie comme ça. Mais nos cueilleurs de thé du Labrador, c'est nos meilleurs cueilleurs, toujours. Puis on leur fait confiance. Puis quand je vais vérifier les tâles, selon le système de rotation, tout est beau, tout le temps. Je me fie pas mal là-dessus, à l'œil et aussi à la qualité du produit, ça c'est sûr et certain.
Ouais, la qualité du produit, ça en dit beaucoup, là. Puis tu peux dire, ben, t'as cueilli en cochon là-dessus, tu sais, t'es pas nécessairement obligé d'aller voir toujours les tâles, ça c'est clair, j'entends ça. Puis vous êtes un peu comme le lieu de distribution, donc c'est pas celui qui le reçoit au restaurant à Montréal qui va pouvoir dire, hey, tu sais, tes tâles, elles ont été mal cueillies. Vous arrivez tout de suite avec le cueilleur avant même de sécher les plants, tu sais, si je
Oui,
comprends bien.
exactement. Le cueilleur, à la fin de sa journée, il vient nous porter son produit pour que nous autres, on le mette dans nos installations de conditionnement. Fait que déjà là, je peux le voir, là. Il arrive avec combien de thé à la fin d'une journée? Un cueilleur qui va arriver avec une dizaine de kilos frais, cueilli à la main, seulement les feuilles, ben là, je sais qu'il a bien cueilli. Mais s'il arrive avec des grosses poches à pu finir, puis que là, je le sais que c'est impossible qu'il a bien cueilli. Ça se peut pas parce que moi, je fais les tests. Je suis personnellement un excellent cueilleur rapide. Puis je sais ce qui est possible ou non aussi là, à réaliser de façon éthique dans une journée avec les quantités disponibles chez nous. Là-dessus aussi, on se fie sur le jugement et le gros bon sens. Puis ensuite vient justement la vérification des tâches puis des zones établies.
Tu parlais de ce que tu appelles les aînés là, qui sont la majorité de vos cueilleurs et que dans les 5 à 10 prochaines années, ce qui est assez court comme délai. Vous voyez un problème de main-d'œuvre. C'est quoi votre stratégie pour pallier à ça? Est-ce que c'est un problème démographique plus général, tu sais, qu'il manque de jeunes en région? Puis, comment t'encouragerais, admettons, un jeune de ta région ou un jeune nouvellement établi dans ta région à se lancer dans ce secteur-là qui est marginal, tu sais?
Ben effectivement, c'est un problème plus démographique général de la région de la Mingani. où la population est très vieillissante, puis l'arrivée de nouveaux jeunes ou l'exil de nos jeunes, c'est un problème qui persiste. Fait que comment on fait pour le moment? C'est très difficile, je vous dirais. Dans un futur proche, c'est sûr qu'on va donner des formations dans les écoles, peut-être secondaires, puis aussi sur le terrain là, à la coopérative pour essayer de semer la graine de l'envie de cueillir, là, comme moi, ça m'a été fait par l'équipe fondatrice du Grenier Boréal. Faut essayer, faut faire tester ça aux jeunes pour voir, peut-être pas pour en gagner sa vie, parce qu'on peut pas nécessairement gagner sa vie de la cueillette, mais on peut en faire une activité rentable, super intéressante, super plaisante, autant à faire seul comme relaxation ou en famille comme activité. On va aussi tenter de tous nos jeunes, nous, dans le fond, au Grenier Boréal, à chaque été, on reçoit entre 4 et 6 stagiaires de l'extérieur du Québec qui, eux, vont venir. Puis je vous dirais que présentement, depuis les 4 ans que je suis là, à chaque été, on réussit à en faire rester, déménager en Mangani, environ un ou deux. Fait que déjà là, ça, c'est une bonne façon d'attirer des cueilleurs. Puis la plupart vont cueillir l'été, même s'ils travaillent pas au Grenier Boréal ou whatever. Fait que ça, c'est une de nos techniques. Mais sinon, on va vraiment miser, je pense, sur aller dans les écoles, faire découvrir cette activité-là ancestrale à nos jeunes qui l'ont perdue, puis ça s'est pas transmis de grand-père en petit-fils ou de grand-mère en petit-fils. Fait que ça, on va tenter là, dans les prochaines années, pas cette année au Grenier Boréal, vu qu'on a beaucoup d'autres chats à fouetter, mais dans les prochaines années, établir des formations avec même le primaire, là, puis leur faire découvrir le monde, l'univers, la cueillette. Puis on mise beaucoup sur le fait que c'est un industrie en développement, qu'au Grenier Boréal, on donne des prix très intéressants aux cueilleurs. Je dirais même, selon les partages que j'ai faits avec plusieurs entreprises, dans les prix les plus intéressants du Québec. Puis, dans le fond, on va aussi essayer comment je dirais, on va essayer de recruter des gens, pas nécessairement dans la vingtaine ou la trentaine, là, mais des gens sur le bord de la retraite dans notre région aussi, comme pour leur faire passer le temps, parce que souvent, il y a beaucoup de personnes, quand ils arrivent à la retraite, ils savent plus quoi faire trop, puis ils s'ennuient un peu. Mais nous, on va leur faire découvrir l'univers de la cueillette, soit les champignons, soit les petits fruits, soit les PFNL, trouver de quoi qui leur correspond, puis essayer d'augmenter ou de maintenir au même niveau notre flotte de cueilleurs. Ça sera pas chose facile, c'est sûr, mais moi, je pense qu'avec la formation puis la consultation dans les écoles, peut-être que on va réussir à recruter des nouveaux cueilleurs, tu sais, puis à attirer des nouveaux gens. Puis pour ce qui est d'attirer des jeunes, ben ça, on le fait déjà très bien là au Grenier Boréal. On sème beaucoup de nouvelles passions en Mangani, notamment par rapport au maraîchage, qui est une chose qui intéresse beaucoup la nouvelle génération, la culture de légumes biologiques, la permaculture. Puis au travers de tout ça, ben on mélange la cueillette de produits forestiers. Fait que comme ça, on réussit à attirer des gens, puis pas à temps plein, mais ils peuvent venir nous donner un coup de main quand on en a besoin. Les Innus aussi, les communautés Innus, qui, par chez nous, c'est vraiment les aînés dans les communautés Innus qui ont gardé ces traditions-là. Les jeunes, ça s'est perdu. On le voit, là, on voit pas de jeunes Innus qui viennent cueillir ou des choses comme ça. Fait que ça, on va essayer aussi de leur retransmettre avec l'aide de leurs aînés, la passion pour la cueillette, puis l'instinct du chasseur-cueilleur, comme on dit. Ça, il y a un bon potentiel là aussi, puis en même temps, ça pourrait diversifier l'économie dans les communautés Innu, puis même dans les villages, là, à l'automne, ça pourrait vraiment diversifier l'économie. Puis c'est sûr qu'on va approcher prochainement, on travaille un peu là-dessus là, avec le CETFA, puis je sais que le Cégep de Baie-Comeau, il travaille aussi à développer un programme d'attestation d'études collégiales pour les cueilleurs professionnels, chose qui n'existe pas en Côte-Nord, Donc, je pense qu'une fois qu'il va avoir un vrai programme de formation d'établi, puis qu'il y a des jeunes qui vont pouvoir, ou des moins jeunes, y aller, puis le faire, puis découvrir tout cet univers-là de façon concrète et professionnelle, ben, je pense qu'on va réussir à en attirer pas mal. Puis je pense qu'on va réussir, peut-être pas à garder 80 cueilleurs, parce qu'il faut être réaliste, là. Les aînés, ils font tout par chez nous, mais les jeunes ne le feront pas tout. Je pense que ça va être notre meilleur moyen, la formation, autant dans les écoles, nous-mêmes, semer l'envie de le faire jeune, faire des petites sorties, tu sais, pour montrer. Puis ramener ça chez les Innu un peu, essayer de ramener ça chez les Innu pour développer un nouveau réseau. Et y aller par les formations collégiales aussi. C'est pas mal les 4-5 moyens qu'on va préconiser. Puis bien sûr, nos stagiaires qui, chaque année, s'y intéressent, le font avec nous, puis même déménagent en Mangani pour continuer l'aventure avec le Grenier Boréal ou dans d'autres projets connexes quand même.
Génial, très inspirant. En tout cas, moi, ça me donne le goût. Est-ce que vous êtes ouvert aux visites? Admettons, on veut venir vous voir ou on passe par la côte nord. Comment vous accueillez les visiteurs?
Ben nous, tout le monde est bienvenu au Grenier Boréal en tout temps. Il y a toujours, en saison estivale, il y a toujours des gens sur le terrain. C'est sûr que quand on a le temps, on va faire une visite guidée à nos visiteurs. Mais sinon, on a un sentier qui fait le tour de la coopérative avec des pancartes d'interprétation qui permettent aux gens de voir certains projets de recherche, aussi certaines plantes de la forêt boréale qui sont décrites avec les propriétés médicinales, avec la façon que ça pousse, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis ça, c'est sûr que c'est mieux d'avoir le temps de guider nos visiteurs, mais sinon, il y a quand même un sentier agro-touristique aménagé avec, comme je disais, des pancartes là, qui décrivent bien nos projets. Puis parfois, on reçoit des groupes organisés aussi, surtout scolaires. À chaque année, on en reçoit. Puis on leur fait découvrir un peu tout. Les touristes, eux, ben, je vous dirais que c'est très populaire, Grenier Boréal. On a fait parler de nous beaucoup. Fait que dans les 2 dernières années, on a comme un gros engouement, là. À chaque été, on a vraiment beaucoup de monde. Puis les gens font la visite seuls. Quand ils ont des questions, ils viennent nous parler, soit dans les champs, soit dans le bureau, ou des choses comme ça. Mais tout le monde est bienvenu en tout temps. Pas besoin de réserver, pas besoin de nous avertir d'avance. La porte est ouverte à tout le monde. C'est sûr qu'en temps de COVID, ça a été plus compliqué, mais comme on est dans le plein air et que nous, chez nous, on est en zone jaune, fait que on a plus de liberté, ben on accepte que les gens viennent nous voir sans préavis, puis ils vont toujours être bien reçus et bienvenus.
Génial. En tout cas, je pense que je vais être un de ceux qui va venir vous visiter avec ou sans préavis.
Ça serait un
Alex,
plaisir.
Alex Baudin, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ça fait plaisir. Merci à toi, Sam, de m'avoir donné l'occasion de parler du Grenier Boréal.
Tu l'as très bien fait. Allez, à la prochaine.
À la prochaine.